Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog pour un nouveau podcast de la rédaction, le podcast 562. Aujourd'hui, avec moi, nous avons Thomas en direct de la rédaction.
Hey, en direct de la rédac avec Trace pas loin, qui va peut-être balancer des conneries en direct pendant ce podcast.
Probablement, donc contrairement aux recommandations de notre ministre du Travail.
Eh bien, qui balance pas des gouttelettes.
Ça va à la rédaction en plein confinement. Bravo, félicitations. Vous êtes un bel exemple pour la jeunesse. Bientôt rue Vivienne pour Thomas et Traz.
Bientôt voilà, sur M6.
Et bientôt sur M6, absolument. En direct du manoir Spencer, nous avons Romain, qui n'est pas du tout le manoir Spencer. Hein. C'est juste qu'on va avoir un thème en particulier. Romain, comment ça va?
J'ai cherché une petite bicoque sur Airbnb pour m'isoler pendant plusieurs semaines. C'était pas cher. Il disait qu'il y avait des... On n'a pas accès au sous-sol, curieusement. On peut pas y aller, mais il y a beaucoup d'espace, il y a pas mal de pièces, etc.
Bon. Et vous n'y avez pas encore passé la nuit, hein, c'est ça, c'est votre premier jour.
On débarque, mais tu vois, même malgré des lustres, etc., c'est assez sombre. Il y a pas mal d'écho dans le hall principal, mais bon. Et les chiens n'ont pas l'air très sympas dans la zone, donc j'ai dit aux enfants de pas trop essayer de caresser les chiens.
Donc voilà, donc pour rappel, juste pour dire, Romain, en fait, est à Giverny. Le super host de ce Airbnb s'appelle Patrick. Donc on ne sait pas trop si... On se demande qui c'est. Il a l'air sympa et tout, mais il est assez amaigri d'ailleurs.
Hein. Il nous a dit... On ne sait pas grand-chose sur lui, il nous a juste dit qu'il venait des Balkans.
Ouais.
La seule info qu'on a.
Ouais. Voilà,
il avait installé une piste de danse privative à l'intérieur de son manoir, j'imagine, pour s'entraîner.
Alors cette semaine, messieurs, trêve de plaisanterie, nous allons aborder trois thèmes. Et comme l'actu n'est pas très chargée en ce moment, on s'est dit qu'on allait faire des anniversaires. Voilà, deux anniversaires en particulier. Alors, le premier à 25 ans, Romain a donné un indice avec l'endroit où il allait passer son confinement. C'est Resident Evil, évidemment, le premier Resident Evil qui fête ses 25 ans cette année, depuis le 22 mars, en fait, 96. Il est le papa de toute une lignée de jeux de Survival Horror. Et donc, on va revenir dessus. On va revenir aussi sur la Game Boy Advance, qui, le 21 mars dernier, fêtait eh bien, ses 20 ans. Game Boy Advance, qui est un petit peu on va dire une console très spéciale dans la famille de la Game Boy. On va vous expliquer tout à l'heure pourquoi, et on finira avec un jeu qui fait un peu anniversaire par rapport à qui fait vieux jeu, quoi, tout simplement.
Tu connais l'ascenseur émotionnel.
C'est Balan Wonderworld, qui est donc la dernière œuvre de Yuji Naka, le papa de Sonic, et voilà.
Peut-être la dernière, tout court.
Lui aussi, il est resté bloqué il y a plusieurs décennies en arrière, visiblement. Mais avant ça, comme chaque semaine, vous le savez, il y a le win et le fail. Et le win de la semaine, Thomas, c'est toi qui l'as choisi. Parce que le 1er avril, il y a eu plein de blagues super drôles, comme tous les ans. C'est incroyable, les poissons d'avril, vraiment, c'est le moment phare de l'année pour tout le monde. C'est le moment où on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est marrant, oh là là, on se plie en deux et tout. Et Platinum Games avait aussi son petit poisson d'avril qui fait que toi, t'avais le bide. Enfin, t'as failli aller aux urgences parce que t'avais mal au bide à force de rire.
Tout à fait. En plus, vous savez que c'est une tradition, évidemment, forcément chère à mon cœur. Les fake news sur les sites d'info et tout, c'est quand même super chouette. Et là, on s'est quand même bien fait avoir parce que quand tu balances un truc le 1er avril qui a l'air quand même un petit peu gros, tout le monde se dit oui, mon œil ou un autre orifice.
Ah bon?
Ouais, je te laisse deviner lequel. Et là, en plus, c'était Platinum Games par l'intermédiaire d'Hideki Kamiya, donc c'est-à-dire le troller quand même en chef de l'industrie, qui l'année dernière promettait une annonce justement le 1er avril 2020 en disant ouais, il y a un petit jeu qui va sortir, ça fait partie du Platinum 4, donc les quatre jeux qui sont en projet du côté de chez Platinum, mais c'est un petit truc. Et donc on s'était tous dit oui, mes fesses. Et finalement, non, ils ont remis le couvert cette année en disant que non, le shoot'em up en question, Sol Cresta, est bien en développement chez Platinum Games et il va sortir cette année avec une première petite vidéo de gameplay, une première vraie bande-annonce. Et du coup, ça a évidemment surpris tout le monde parce que Platinum qui annonce un jeu un 1er avril, autant vous dire que sur le coup, personne n'a envie d'y croire. Surtout quand on attend des nouvelles d'un certain Beat 'em All qui est en développement chez eux depuis plusieurs années avec pas mal d'impatience. Mais du coup, ils nous ont bien eu puisque le jeu va effectivement sortir cette année. Donc, quoi qu'il arrive, on aura bien un jeu Platinum Games à se mettre sous la dent. Donc, bon, c'est loin d'être le jeu qu'on attend tous, surtout toi, mon cher Plume. Là, pour le coup, c'est vraiment un shoot'em up rétro. Petite pointe de Dan Maku, mais ça n'a pas l'air forcément d'aller très très loin dans le shoot'em up hardcore. Mais c'est une suite spirituelle, en fait, de deux vieux jeux des années 80, Moon Cresta et Terra Cresta, qui étaient donc deux jeux d'arcade de shoot à l'ancienne, avec un scrolling vertical. Et là, pour le coup, eh bien, Platinum en fait lance une nouvelle gamme. Alors pour l'instant, il y a évidemment que ce jeu-là, ça s'appellera Neo Classic Arcade Series. Donc a priori, on peut s'attendre à les voir travailler sur d'autres petits projets comme ça, inspirés des jeux d'arcade d'antan. Et bah, du coup, c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'on est au moins assuré de pouvoir goûter à une de leurs productions en 2021. Donc moi, j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle arrivera donc normalement dans les mois qui viennent sur PC, PS4 et sur Switch.
Très bien.
C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus, que outre les blagues du 1er avril d'une lourdeur absolue, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de boîtes qui profitent du 1er avril pour faire des annonces qui paraissent totalement farfelues et improbables, alors qu'en fait ça cache de vrais produits, de vraies choses. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est plus agréable, en fait, parce que comme le DuckTales, tu sais, qui avait été annoncé par FDG l'année dernière, là, qui avait l'air magnifique, un nouveau DuckTales, et en fait, bah non, c'était juste rien du tout. Là, au moins, ils annoncent des trucs un peu improbables, alors qu'en fait, bah ça existe vraiment. Je préfère cette démarche-là, en fait, que juste décevoir les gens, finalement.
Bah, le problème, après, c'est qu'en termes de com, tu peux être noyé dans la masse, justement, des annonces que tout le monde juge bidon ou farfelu.
Ouais, mais quand tu confirmes que c'est vrai, ça te permet de ressortir une seconde fois.
C'est ce qui est arrivé pour eux, puisqu'en fait, la confirmation, elle est venue aux premières heures du 2 avril, qui en plus commence d'abord au Japon, hein, rotation de la Terre, tout ça. Et ils ont attendu justement les premières heures du 2 avril pour dire « Non, non, on vous confirme, on est le 2 avril et on peut vous dire que Sol Cresta va bien sortir et qu'on est en train de travailler dessus. »
Bon, très bien. Bah écoute, beau poisson d'avril. On aimerait avoir des poissons d'avril comme ça plus souvent, en fait. Comme dit Romain, il a parfaitement raison. Romain, le fail de la semaine, lui, c'est pas un poisson d'avril, c'est quelque chose de très concret qui va arriver cet été, tout simplement. C'est la disparition des PlayStation Store PS3, PS Vita et PSP, donc qui a été officialisé par Sony. On en avait discuté il y a quelques semaines. Et ben, ça va pas faire que des heureux, forcément.
Ouais, alors en fait, on en avait parlé à l'époque où ça c'était encore qu'au stade de rumeurs, on va dire rumeurs relativement sérieuses. Et au cours des 7 derniers jours, bah, on a eu l'officialisation de la fermeture de ces stores sur les 3 consoles par Sony. Et ensuite, des gens se sont penchés, et plus particulièrement le site britannique VGC, se sont penchés en fait sur le nombre de jeux que ça représentait, ces fermetures. Et donc de base, si on compte juste tous les jeux proposés sur ces 3 plateformes jusqu'à présent, c'est environ 2200 jeux qui disparaissent, qui ne sont plus proposés sur ces plateformes. Mais bien évidemment, dans le lot, vous avez des jeux qui sont sortis en boîte, vous avez aussi des jeux qui sont sortis sur d'autres plateformes comme le PC ou les consoles Xbox, et donc dans certains cas continueront d'être disponibles ailleurs. Mais si vous creusez tout ça et que vous gardez uniquement les jeux proposés en démat sur ces consoles, et pas sorti en anglais en boîte quelque part, eh bien ça vous fait 138 jeux qui disparaîtront purement et simplement lors de la fermeture de ces PlayStation Store. Donc il y a des trucs d'un intérêt plus ou moins important, mais malgré tout, ça veut dire que bah, t'as un petit morceau de l'histoire du jeu vidéo qui, sauf réédition par la suite ailleurs ou sortie de version boîte venue de nulle part, etc., bah ça, vous avez quasiment 150 jeux qui disparaîtront définitivement. Et niveau fail, c'est quand même pas mal. Et je trouve ça extrêmement dommage. Mais bon, c'est la gestion du rétro gaming, la préservation, etc. Sony, sous la direction de Jim Ryan, a montré à plusieurs reprises que ce n'était pas dans leurs préoccupations premières. Et donc bah là, ça se confirme et c'est dommage.
Et puis même s'il y a des rééditions de certains jeux, comme tu le disais, ce qui pourrait très bien arriver, ça risque d'être des versions limitées en termes de tirage, etc. Et malheureusement, ça n'aidera pas le problème de la préservation justement du média dans sa globalité. Et si vous allez voir la liste, puisque tu l'as publiée sur Gameblog, il y a quand même des jeux qu'on est un peu triste de voir disparaître. Enfin, il y a du Hippochrome et des choses comme ça, No Heroes Allowed, enfin, plein de petits jeux, mais qu'on ne pourra plus trouver si on ne les a pas téléchargés avant. Et c'est quand même très, très, très dommage.
Et le pire, enfin, c'est pas le pire, mais ce qui ajoute à la tristesse de cette situation, c'est que cette liste, en fait, va continuer de grossir jusqu'au dernier moment. Parce qu'on sait qu'actuellement, sur Vita spécifiquement, il y a des studios indés qui sont en train de cravacher comme des dingues pour pouvoir atteindre la certification et la validation par Sony jusqu'au tout dernier moment de leur jeu. Donc on sait que dans les prochains mois, il y a encore quelques jeux indés qui vont sortir sur le PlayStation Store PS Vita, mais ces jeux-là finalement seront non seulement disponibles que pendant quelques semaines, voire quelques jours dans certains cas, mais ensuite ils disparaîtront dans la foulée. Donc certains sortiront également ailleurs, mais pour ceux qui étaient uniquement prévus sur PS Vita, c'est dommage. Et d'ailleurs, en plus de ça, il y a des jeux qui ont été tout simplement annulés faute de temps. Parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de développer, toujours à l'heure actuelle, des jeux sur PS Vita. Ils n'avaient pas été prévenus par Sony en amont de la fermeture du store. Et donc, bah, voilà, ils se rendent compte qu'ils n'auront pas le temps de terminer leur jeu avant la fermeture du store. Donc, bah, jeu annulé, tout simplement. Et j'ai même entendu parler d'un cas d'un studio indé qui avait acheté son kit de développement PS Vita il y a un peu plus d'un mois.
Donc,
Les kits de développement ne sont pas offerts, hein. Il faut les acheter aux constructeurs, et là, en l'occurrence, à Sony. Et alors, à moins que la décision de fermer les stores elle ait été prise soudainement sans qu'il y ait mûre réflexion ou pas, ou alors peut-être que les différentes divisions concernées n'étaient pas au courant. Peut-être qu'à la direction de chez Sony, on savait que ça allait fermer, mais que les relations avec les éditeurs et les studios tiers, peut-être qu'eux n'étaient pas au courant que ça allait fermer. Donc, en fait, ils ont pu acheter leur kit de développement alors que l'annonce de la fermeture allait suivre quelques jours après, quoi.
Donc, dans un cas comme dans l'autre, il y a un vrai problème de communication, quelle que soit la raison. Effectivement, on ne la connaît pas, mais c'est un problème qu'on laisse faire comme ça. Et même si les kits n'étaient pas forcément encore en vente libre, le fait que tu planches sur un portage et qu'on dise après coup, bah, en fait, non, votre jeu va exister quelques semaines, voire pas du tout, c'est un vrai loupé de la part de Sony. Mais ça montre aussi à quel point ils s'en tamponnent finalement pas mal.
Ouais, ils doivent se dire qu'ils ont fait leur oseille, ils ont fait leur oseille sur ces plateformes, et maintenant full focus sur la,
ça appartient
sur la
passé.
PS5. Jim Ryan, c'est quelqu'un qui est très dans le présent, et technologiquement il veut les trucs uniques. Enfin, il s'intéresse uniquement aux trucs à la pointe, donc pour lui ce qui s'est passé avant ça n'a plus d'importance.
Et évidemment, la spéculation va aussi avoir droit d'être là pour pas mal de jeux qui vont prendre de la valeur, notamment dans ces jeux-là. Donc en fait, c'est que du perdant. Donc vivement que des gens puissent réussir à les archiver quelque part et qu'on puisse y accéder ensuite.
Bah, ça prendre de la valeur de Johnny One, ça.
Prendre de la valeur sur du démat, c'est compliqué. C'est...
Ouais, non, mais tous les jeux Vita sortis à peu d'exemplaires ou des choses comme
ça.
Ah oui, ouais, voilà.
Et les éditions Vita les plus rares, oui, elles pourraient flamber. Et apparemment, même avant l'annonce de la fermeture du store, il y a certains jeux PS Vita physiques qui commençaient déjà à prendre de la valeur. C'est bien triste. Ça ne va pas aller en s'arrangeant, évidemment.
Non, c'est bien triste tout ça, mais malheureusement, il va falloir passer à des choses plus joyeuses. Tout de suite, hein, on va oublier un peu ces tristes annonces pour passer au premier thème de la semaine. Et maintenant qu'on est dans le gros du podcast, nous allons donc parler d'abord de Resident Evil, le premier épisode. Nous parlerons de la Game Boy Advance et de ses 20 ans après, et ensuite de Balan Wonderworld. Mais d'abord, c'est le premier Survival Horror de Capcom, paru le 22 mars 1996 au Japon, arrivé un peu plus tard chez nous, sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui, parce qu'on avait envie tout simplement de lui souhaiter un bon anniversaire et de parler un peu de nos souvenirs à propos de ce jeu qui est encore aujourd'hui un monument, qui a été réédité plus tard dans une version remakée sublime sur GameCube, et qui est elle aujourd'hui toujours jouable, toujours agréable à jouer. Donc 22 mars 96, premier jeu. Alors là, je fais un peu de la pub pour Joypad comme d'habitude, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'était le magazine de l'époque que je disais, mais c'était le premier 100% dans Joypad. Je crois que c'était Greg qui avait fait le test à l'époque, et pourtant il y a eu beaucoup de jeux qui ont eu à l'époque des pourcentages, des notes exceptionnelles, mais c'était le premier à l'avoir reçu. Une révolution absolue que ce jeu que on n'attendait pas forcément, et qui est donc le premier survival horror daté, entre guillemets, même si on sait que c'est un peu plus compliqué au niveau de l'histoire, on y reviendra tout à l'heure. On pense à Alone in the Dark, qui était un peu plus, qui était sorti un petit peu avant et qui l'a un peu aidé dans son approche. Jeu avec des angles de caméra différents pour donner un ton cinématographique à l'exploration, un peu d'action, un manoir, des zombies, une formule qui a été répétée, reprise à maintes reprises justement par la suite. Qu'est-ce qu'on peut en dire, mon cher Romain, toi qui es un grand fan de la série ?
Alors, avant toute chose, deux petites précisions. Tu disais que c'était le premier survival horror de Capcom. Oui et non, parce que tu avais sur NES au Japon uniquement le fameux Sweet Home, qui a quand même beaucoup servi d'inspiration et qui est d'ailleurs un peu à l'origine de la création de Resident Evil sur PlayStation des années par la suite. Sweet Home, c'était un RPG d'horreur inspiré d'un film du même nom. Donc c'était un jeu à licence qui est sorti qu'au Japon, mais qui a eu un petit succès de par sa réalisation. Donc déjà, c'est... Oui et non, premier jeu d'horreur de Capcom. Et pour ce qui est du terme survival horror, qui est quand même rentré dans le langage commun de tout le monde, c'est une création de Capcom, là, pour le coup. C'était ce qu'on sait que les jeux Capcom, à cette époque-là, sur la jaquette, tu avais un petit rectangle en bas, au milieu, avec le genre du jeu en question. C'est comme ça aussi que l'expression versus fighting est venue, parce que c'était Capcom qui mettait ça sur ses jaquettes. Et donc, pour le premier Biohazard, donc le titre... japonais original de Resident, c'était marqué Survival Horror. Donc déjà, voilà, ça, c'est le premier truc. Ensuite, je ne me souviens plus de ta question, Plumeau.
Je ne sais plus non plus. Voilà, tu veux le savoir ? Je ne sais plus.
Alors,
qui êtes-vous et que faites-vous ici ?
Si tu veux la création de Resident à la base, c'était Tokuro Fujiwara, qui était un producteur réalisateur chez Capcom, qui justement s'était occupé de Sweet Home. Et l'idée de faire un jeu d'horreur, et ensuite plus particulièrement un jeu d'horreur en 3D, ne l'avait jamais quitté, en fait. C'était une envie qui était toujours présente, mais techniquement, les consoles ne permettaient pas, la NES ou la Super NES ne permettaient pas forcément de faire ça. Et avec l'arrivée de la PlayStation et de ses compétences, forcément, ça a ouvert des portes. Et c'est comme ça que le projet de Resident s'est lancé. Alors, il ne pouvait pas faire vraiment une suite de Sweet Home parce que c'était un jeu à licence et que la licence avait expiré, etc. Donc, c'était plus possible. Mais ils ont eu envie de créer quelque chose de nouveau. Et Tokuro Fujiwara, qui n'était plus... il n'avait plus vraiment les mains dans le cambouis à ce moment-là, a décidé de confier le projet à Shinji Mikami, qui lui avait fait ses marques sur différents jeux de Capcom des années précédentes, dont les jeux à licence Disney, comme Aladdin, la version Super NES d'Aladdin, parce qu'on sait bien qu'il y a une différence entre les versions SNES et Mega Drive d'Aladdin. Mais donc, Shinji Mikami, qui avait réussi à se faire un petit nom au sein de chez Capcom, s'est vu confier le projet et il s'est lancé là-dedans. Et il faut savoir que, on sait que Resident, c'est devenu un immense succès pour Capcom. On va dire son premier succès majeur depuis Street Fighter 2. Enfin, vraiment un succès d'envergure totale. Et ça a totalement bouleversé le chemin pris par Capcom dans les années suivantes. Ça l'a permis de passer dans une autre catégorie en termes d'éditeurs et de développeurs de jeux. Et pour beaucoup de développeurs de Capcom de l'époque, c'est tout simplement le jeu qui a sauvé Capcom. Parce que la vague, le raz-de-marée Street Fighter 2 et ses dérivés étaient quand même pas mal retombés dans les années qui ont suivi. Et ils n'avaient plus vraiment de succès d'envergure comme ça, et donc il fallait continuer à...
Alors, faut dire que Capcom, ils produisaient énormément, des années 80 aux années 90, il y avait énormément de jeux, et ça pouvait aussi se noyer, que ce soit Commando, Ghost and Goblins, Strider, Tiger Road, j'oublie, puis je ne parle pas des Megaman ou autres.
C'était des succès, ces jeux-là, mais pas d'une taille suffisante en termes de vente, et d'ailleurs... Apparemment, le PDG de Capcom de l'époque a pendant, on va dire, au milieu des années 90, a injecté de l'argent dans Capcom de manière régulière, mais cet argent-là ne venait pas du jeu vidéo, il venait en fait de ses activités parallèles dans la viticulture. Ce qu'on sait on va dire à la fin des années 80, jusqu'au vraiment tout début des années 90, le Japon a connu un boom économique sans précédent, et il y a beaucoup de riches japonais qui ont investi ailleurs, à l'étranger, dans des terres, dans différents trucs. Et donc le PDG de Capcom, lui, avait investi dans une vigne en Californie. Et donc c'est l'argent généré par ces vignes qui ont permis de renflouer Capcom pendant plusieurs années. Donc il y a beaucoup de développeurs de Capcom de l'époque qui s'attendaient à ce que la boîte fasse faillite, tout simplement. Mais grâce à la viticulture, ça a tenu. Et grâce à Resident, au moment de sa sortie, bah là, ils ont été sauvés, qu'on va dire, avec brio.
Et ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts à ce que le jeu rencontre un tel succès, d'après ce que tu nous dis.
Alors, ils pensaient tenir quelque chose, mais pas à ce niveau-là, quoi. Parce que là, le public a répondu présent au Japon immédiatement et à l'étranger aussi. Et au Japon plus particulièrement, on va dire que Resident est arrivé au bon moment. Il a bénéficié d'une bonne dynamique de la PlayStation qui se vendait bien, oui, en partie grâce au Switch annoncé de Square, de FF7, que tout le monde pensait comme étant prévu sur N64, parce que tous les Final Fantasy étaient des jeux sortis sur console Nintendo auparavant. Et donc la Square Switch de fidélité vers la PlayStation, donc les Japonais, le RPG, ça restait le genre le plus populaire au Japon, donc les consommateurs japonais, ils ont suivi le mouvement.
Et Enix aussi d'ailleurs, ce qui n'était pas grand-chose en Occident, mais qui était gigantesque aussi au Japon.
Et donc les Japonais ont suivi la PlayStation, et Capcom qui arrive avec son jeu quand même avec une mise en scène et un style quand même assez ambitieux et très différent de ce qu'on avait pu avoir jusqu'à présent à cette échelle-là. Et donc, il arrive au bon moment, un moment où il y a de la demande, où il y a de l'envie, etc. Et donc là, il casse.
Et de la maturité, parce qu'on le dit, on peut le dire aussi, c'est une chose qui manque pas mal aux jeux vidéo, parce que la représentation habituelle aussi est encore un peu minimaliste à l'époque de la 16 bits, à part Doom. Qui arrive à nous mettre des démons à défoncer.
Ou Splatterhouse,
absolument.
C'est bien vénère aussi.
Il y a des demandes quand même pour l'horreur qui sont très limitées. Et là, on a quelque chose qui est somme toute assez réaliste par rapport à... C'est de la 3D, réaliste, entre guillemets, parce que c'est de la représentation de personnages, on va dire, bien en pied et plein, on va dire, avec la 3D. Et il y a ça aussi, et le fait que, comme tu le disais, le Japon a largement adhéré à la PlayStation, l'Occident aussi a largement adhéré à la PlayStation, notamment avec tous les jeux qui sont sortis auparavant, les jeux de lancement comme Wipeout, comme Toshinden, et on en passe. Donc du coup, ça a forcément créé un bon tremplin pour Resident Evil à l'époque, parce que comme on le dit, quand il arrive, le jeu est suivi, mais quand il arrive, on n'imagine pas que ça va être un monstre. À ce point-là, on bave devant les screens, évidemment, comme beaucoup de monde, mais on se dit pas, ça va être un jeu extraordinaire, quoi.
Le truc, c'est que la PlayStation, à partir de sa sortie, et là, je parle principalement de l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe, on nous la présente comme une console pour adultes, même si c'est jamais dit explicitement. C'est à l'inverse de Nintendo qui continue de faire des jouets pour enfants. En fait, ce qu'il faut savoir, qu'un des mecs du marketing de PlayStation US, qui donc était un peu le moteur pour l'Europe aussi, c'était un ancien de Sega qui avait utilisé exactement la même stratégie aux États-Unis dans les années 90, en disant voilà, Nintendo, ce sont des jouets pour les enfants, mais nous, Sega, on y va à fond pour les adultes. Et la PlayStation, c'était la suite logique de ça. Et donc là, en fait, avec Resident, au moment où ça sort à l'été 96 chez nous, c'est une manifestation et une preuve parfaite de justement, oui, et voilà, ce sont des jeux pour adultes, et en plus, avec une mise en scène et une réalisation auxquelles on n'avait jamais eu le droit avant ça. C'est du film. Alors, du film ultra kitsch, faut pas se leurrer, mais c'est du cinéma jouable qu'on a sur nos consoles. Et d'ailleurs,
on se rappelle aussi d'ailleurs que c'est l'année où est sorti Tomb Raider. Aussi, ouais. Au passage. Donc, deux jeux en 3D, parfaitement présentés, très attirants tous les deux.
Ouais. Et d'ailleurs, je précise, parce que je parlais de la kitscherie totale du premier Resident, c'est que Capcom, en fait, a été presque pris par surprise, parce qu'eux, on sait qu'en termes de scénario, par exemple, jusqu'à présent, dans leur jeu, c'était quasiment le néant, ou presque. Qu'on parle de Street Fighter, de Mega Man ou des jeux comme ça, il n'y avait pas vraiment de scénario.
Parce qu'ils se focalisaient sur un genre qui ne nécessitait pas forcément de développer un univers incroyable
c'était
aussi.
C'était pas le besoin. Il n'y avait pas de voice acting non plus. Donc, c'était fait un peu à l'arrache. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que le doublage du premier Resident est rentré dans l'histoire. Pour plein de raisons et certainement pas les raisons espérées à l'origine, mais c'est juste que Capcom a fait ça sans vraiment savoir. Déjà, il faut se dire que les phrases qui peuvent paraître totalement bizarres quand elles sont pour des anglophones, une manière de s'exprimer des personnages qui ne paraît pas naturelle et qui est même parfois incorrecte, c'est que au Japon, le jeu était doublé en anglais aussi. Le doublage japonais dans les Resident, c'est arrivé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et ce qui veut dire qu'il fallait des phrases très courtes et très simples. C'est pour ça que tu as des trucs du genre « Oh, it's a monster !» ou alors « Don't open that door !» Tu vois, c'est des choses très simples et dites assez lentement pour que le public japonais comprenne. Et en plus de ça, c'était pas des comédiens professionnels. En fait, le jeu a été doublé au Japon, et donc il cherchait des natifs anglophones disponibles à proximité de Tokyo ou d'Osaka, tu vois. Donc c'est pour ça que ils n'ont pas fait la fine bouche. Et après, dans l'eau, il y en a quelques-uns qui ont fait carrière dans le doublage, et certains se défendent en disant mais non, on n'était pas si mauvais que ça. Enfin, si on est perçu comme mauvais, c'est parce que nous, au moment d'enregistrer, on n'avait aucune information sur le contexte, sur la manière dont ça. Il n'y avait pas de production, il n'y avait pas de direction artistique, tu vois. Donc, en fait, ils lisaient leurs phrases telles qu'on leur donnait. Et après, c'était comme ça et c'était tout, quoi.
À leur décharge, ça marche plutôt bien. Enfin, on sait que pour les films d'horreur, en tout cas, la série B ou la série Z, c'est un genre qui est largement représenté. Et quelque part, Biohazard, le premier, il s'inscrit un peu, en tout cas en termes d'acting, dans cette mouvance-là. Et du coup, c'est un peu un hasard, mais finalement, ça donne quelque chose, je trouve, d'assez raccord en termes d'ambiance.
Et après, chaque personne a son expérience personnel avec le jeu, mais moi la première fois où je suis confronté au truc pendant l'été 96 du haut de mes 11 ans, je peux vous dire que le niveau d'acting et trucs comme ça, ça m'a pas du tout marqué. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que t'arrives déjà avec une scène d'intro jouée avec de vrais acteurs, donc des jeux qui faisaient ça à l'époque, il y en avait pas 36, et donc moi j'avais la pétoche dès la scène d'introduction, donc tu vois c'était marquant à ce niveau-là déjà.
Oui, même en étant un ado bientôt adulte, il y avait des trucs qui marchaient dans le jeu. L'intro, j'avoue, on s'est beaucoup marré quand même sur l'intro. Même s'il y avait des trucs qui étaient pas si mal que ça finalement, tu sais les plans où on voit pas trop que c'est un faux, c'est une main qui ramasse, je sais plus à un moment. Ouais, voilà, là on le voit pas trop que c'est mal fait, c'est pas le moment où c'est le pire. Le chien, quand on voit la gueule du chien en gros plan, ça va encore. Par contre, c'est vrai que quand Chris fait semblant de regarder un cadavre au sol et fait comme ça, là tu te dis ok, là ça c'est pas possible. Et certaines répliques comme tu le disais, mais au-delà de ça, on est en 96. Ce genre de choses, c'est réservé à des jeux comme Night Trap ou autre, où on a un peu d'acting, un peu de FMV. Donc, du coup, on n'y fait pas spécialement attention. On est juste content d'avoir un jeu qui propose quelque chose de différent et d'avoir cette intro qu'on regarde finalement plusieurs fois à la suite pour se dire putain, c'est costaud quand même. Hein. Putain, ça va être bien le jeu. Et une fois que t'es dans le jeu, tu te rends compte que même si effectivement, on est plus proche de la série B. Il y a déjà des ficelles qui marchent parfaitement bien dans le jeu. C'est-à-dire, on peut revenir sur le point Déjà, il y a ce zoom, cette première rencontre avec un zombie, où quand le zombie tourne la tête comme ça, tu te dis, ah, il est bien fait quand même. Et là, si tu joues dans le noir, normalement, tu te dis, ça craint un peu. Quand tu as déjà quelques bruits un peu louches, quand tu ouvres la première fois une porte et que tu vois que la porte, ça met un temps, tu ne sais pas ce qui va se passer derrière, tu as juste ce faux écran noir et tu te demandes ce qui va se passer. Et surtout ce moment, en fait, le moment, je pense, qui a marqué tout le monde à l'époque, c'est tu marches tranquillement dans un couloir ou tu cours d'ailleurs, que ce soit avec Jill ou Chris, et là d'un coup, tu entends des fenêtres qui se brisent et là tu vois des claps passer. Le moment où les Doberman zombies arrivent dans le truc, c'est à la fois très bien fait au niveau sonore et au niveau visuel, et en plus ça provoque ces chocottes qui font que tu es un peu stressé, tu sais plus comment tu dois faire pour les buter, et ça se trouve tu t'y passes dans la foulée, quoi.
Ah bah crise cardiaque directe, hein. Et le pire, c'est que les chiens dans Resident ne sont pas vraiment les ennemis les plus puissants. Ils sont même plus faibles que les zombies. Mais ça va tellement vite, t'es tellement pris de court. En plus, avec la musique qui s'accélère pile à ce moment-là, parce que la musique joue un rôle très important dans Resident. C'est un ensemble de choses. Les angles de caméra, les chiens qui se déplacent vite, la surprise, la musique, tu paniques. Enfin, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui déjà sont morts à cette scène. Bah et oui. Où ont vidé toutes leurs balles n'importe comment pour essayer de se débarrasser de ces chiens, parce qu'en plus dans Resident des balles t'en avais pas à foison. Alors après, quand tu commençais à maîtriser le jeu, à faire des sortes de speedrun, là tu pouvais t'en sortir pépouze tranquillement, mais la première fois c'est pas du tout ça. En plus, tu sais pas encore qu'il y a un chargeur qui est caché derrière un des meubles dans ce fichu couloir. C'est peut-être la scène la plus marquante du premier Resident, qui pourtant a plusieurs scènes marquantes qui ont marqué les esprits sur la durée. Là, c'est ouais, le chien, c'est une idée, enfin la scène des chiens, c'est une idée d'un génie total.
Bah, c'est la preuve que donc Capcom, Mikami et toutes les personnes qui l'ont accompagné savaient déjà à ce moment-là quelles étaient les ficelles sur lesquelles il fallait tirer pour pouvoir faire un mélange quasi parfait, si ce n'est parfait, d'action, d'exploration, de peur et des énigmes aussi, parce qu'on le dit pas assez, mais Resident Evil, c'était aussi pas mal d'énigmes bien bien tordues la plupart du temps.
Mais c'est que le résultat auquel nous on a pu jouer, c'est le fruit d'une tonne d'expériences en interne et de tentatives diverses et variées pour voir ce qu'ils pouvaient faire. Parce que, et ça, ils l'ont déclaré officiellement, ce sont pas des bruits de couloir, etc. Ils ont essayé d'abord de faire un jeu en first person, mais ils se sont rendus compte que la PlayStation n'en avait pas assez dans le sac pour pouvoir supporter des décors et des personnages en 3D en temps réel. Ils ont essayé un gameplay à la Devil May Cry, c'est-à-dire un gameplay action à l'inverse des contrôles qu'on appelle tank. Officieusement, ils ont essayé donc un gameplay plus orienté action, mais ils se sont rendus compte que ça devenait trop simple en fait. Les zombies étaient tellement lents que avec un gameplay comme ça, tu pouvais les esquiver beaucoup plus facilement de cette manière-là. Ils ont aussi fait des expériences vis-à-vis des rubans encreurs, parce qu'on se souvient qu'à l'époque, sur PlayStation, tu avais des cartes mémoire, les consoles n'embarquaient pas de système de sauvegarde directement en interne, donc il fallait avoir une carte mémoire. Et pour sauvegarder dans le jeu, il fallait trouver des machines à écrire et utiliser des rubans encreurs pour sauvegarder. Sauf qu'à l'origine, dans le jeu final, tu avais trois rubans encreurs à chaque fois que tu trouvais un ruban, donc tu pouvais sauvegarder trois fois. Sauf qu'à l'origine, il y avait moins de sauvegardes que ça. Je crois que c'était une sauvegarde par ruban. Et en fait, il y a un des producteurs du jeu qui s'est dit, si on continue sur cette voie-là, en fait, les joueurs vont passer la plupart de leur temps à chercher des rubans. Ça va devenir la motivation première du jeu, et donc ça détourne complètement l'attention de ce que l'aventure doit être normalement. Donc ils ont augmenté le nombre de rubans justement pour pouvoir mieux équilibrer le jeu. Il y a aussi le coût des temps de chargement dissimulés derrière les portes, ce qui est absolument brillant, parce que j'ai jamais vu d'autres jeux qui utilisaient les temps de chargement d'une manière aussi intelligente. Parce que finalement, tu t'en rends même plus compte qu'il y a des temps de chargement. Tu passes juste quelques secondes à flipper sur ce qui va t'attendre, ce qui va t'attendre derrière.
Donc ça, ils font même partie de la narration au final.
Ouais. Ça c'est totalement génial. Et donc il y a plein de trucs comme ça qui ont été utilisés aussi. Ça, il y a même eu des changements entre les versions japonaises et occidentales. Par exemple, au Japon, quand tu visais avec R1, et ben ton personnage visait automatiquement l'ennemi. Alors qu'aux États-Unis et en Europe, pour augmenter la difficulté un peu plus, parce qu'en fait, c'était un moyen de lutter contre la location des jeux. Parce que si les jeux étaient trop simples, tu pouvais les louer et les rendre le lendemain ou deux jours après, et ensuite, ils ne revenaient plus du tout. Et donc, pour rendre les trucs un peu plus... Puisque la location était interdite au Japon, pour rendre les jeux un peu plus difficiles, et ben, ils ont désactivé la visée automatique en Europe et aux États-Unis. Donc ça, ça rajoutait un petit peu aussi de la difficulté à l'expérience.
Très bien, on peut parler quand même de l'inspiration, donc, aussi, puisque tu le disais au départ, Capcom voulait en faire un FPS.
Ouais.
Et c'est finalement, en découvrant un autre jeu, ça c'est Shinji Mikami qui l'a avoué il y a à peine quelques années, c'est en découvrant Alone in the Dark qu'ils se sont dit, tiens, cette idée, elle est plutôt intéressante.
Ouais, bah, quand tu joues à Alone in the Dark 2, par exemple, avec ses décors précalculés, ses angles de caméra fixes, c'est difficile de pas voir de points communs. Par contre, il est indéniable que Capcom a peaufiné quand même vachement la formule et la en termes de qualité aussi bien de mise en scène que de gameplay, ils ont fait passer plusieurs rangs supérieurs à la chose.
Quoi. Oui, et puis on passe d'un truc un truc Lovecraftien à du Romero, quoi, à du film de zombies années 70-80. Donc, c'est effectivement pas la même chose. Mais au moins, Mikami a reconnu qu'effectivement, il y avait eu une grosse inspiration, que Infogrames et Capcom s'étaient un petit peu chamaillés là-dessus et que ça s'était réglé à coup de chèque et de chut, on dit rien. Et que lui avait dû, pendant plusieurs dizaines d'années, nier complètement. Non, je connais pas le jeu, jamais vu. Donc voilà. Donc quand un développeur vous dit je sais pas, je connais pas, jamais entendu parler, essayez quand même de pas le croire, quoi, ouais. Tout simplement.
Ah bah, de toute façon, c'est un grand classique. C'est un grand classique du développeur japonais. Tu lui mets le nez face à une inspiration qui est évidente, il va nier. Il dira non, j'en ai jamais entendu parler, on n'est pas, parce que c'est aussi un moyen de se protéger légalement, hein, parce que les procès viennent vite et peuvent coûter très cher, et donc c'est pour ça. Mais bon, Mikami a fini par reconnaître, donc faut avouer, à moitié pardonner, et franchement, moi je lui en veux limite pas, parce que Resident, il est tellement génial, tellement culte, que finalement, c'est pas grave. Et quitte à s'inspirer, autant, je le dis tout le temps, autant s'inspirer des meilleurs.
Oui, c'était très bien vu. Après, il aurait peut-être dû le dire dès le départ, ça aurait peut-être été encore plus classe.
Mais là, Infogrames serait arrivé, aurait fait hey, Capcom.
Après, est-ce que tu peux vraiment en vouloir à quelqu'un de reprendre un principe comme celui-ci, le principe des caméras fixes?
Dans le jeu vidéo, ça se fait tout le temps, et ça se fait encore aujourd'hui. Dès qu'il y en a un qui a une bonne idée, il y en a plein qui s'engouffrent dans la brèche juste après et qui font pareil.
J'allais dire, il y a eu des plagiats plus honteux dans les années 80 et 90 pour ne pas avoir besoin forcément de tiquer sur ça. Au final, ce Resident Evil, le premier, hein, on est à combien d'exemplaires alors dans le monde ?
Alors Capcom découpe ses ventes de plusieurs manières, parce qu'on sait qu'il y a l'édition originale et ensuite il y a eu deux rééditions créées en partie pour combler le retard de Resident Evil 2, dont le développement a été rebooté totalement quasiment à la fin. Donc il a fallu occuper les esprits et occuper les rayons. Donc ils ont réédité d'abord avec une version Director's Cut qui ajoutait plusieurs niveaux de difficulté, de nouveaux angles de caméra, un repositionnement des objets, etc. Et ensuite, une autre version de Director's Cut compatible DualShock, qui pour le coup, elle n'est jamais sortie en Europe, mais sortie au Japon et aux États-Unis. Donc, la version de base, la vanilla, on va dire, c'est 2,75 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, ce qui pour l'époque, parce que le marché du jeu vidéo à l'époque, il n'est pas comme il est aujourd'hui, hein, donc c'est quand même un chiffre colossal. 1,2 million pour la version Director's Cut et ah non pardon 1,2 million pour la version Director's Cut DualShock et 1,13 million pour la version Director's Cut tout court qui est sortie chez nous avec mes incrustations, c'est un peu foireux. Donc au total c'est 5,08 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.
Alors, sur PlayStation hein.
Sur PlayStation, ouais. Ça compte peut-être aussi les rééditions de la version PlayStation que vous pouviez acheter sur votre PSP ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, la version.
Il y a aussi Deadly Silence sur DS.
Oui, ça compte pas ça. Ouais, ça compte pas la version DS. Ça compte pas le remake, évidemment. Là, ça compte vraiment les versions PlayStation sorties à l'époque et rééditées, mais toujours sous la forme de version PlayStation. Donc, 5,8 millions. Ça reste un des très gros succès de Capcom. Et bon, bah, là, c'est devenu tout de suite, avec un seul jeu, une des licences phares, voire même la principale licence de Capcom. Et cette popularité demeure aujourd'hui. Et ça a supplanté clairement Street Fighter 2 au sommet des principales IP de Capcom.
Très bien.
Juste avant de changer de thème, moi je voulais vous demander votre premier souvenir avec Resident, parce que ça fait vraiment partie de l'expérience de jeu, la première fois qu'on découvre ce jeu et qu'on y joue pour la première fois.
Thomas. Moi, je vais dire un truc tout bête et assez évident, mais c'est vraiment le début, parce que c'est une ambiance qui s'installe quand même assez rapidement. Et moi, j'avais le même âge que toi, 11 ans à l'époque où il est sorti, et la cinématique d'introduction foutait une claque, foutait un peu les jetons aussi, parce qu'à cet âge-là, voilà, il n'en faut pas forcément beaucoup pour t'apeurer. Moi, c'est vraiment le début, le hall et la première salle, the dining room. Que tu visites, c'est tout de suite une ambiance qui s'installe. Tu parlais des musiques, c'est les musiques et le sound design pour moi en général qui ont fait que le premier Biohazard était vraiment très très puissant en termes d'ambiance, d'évocation. Mais à la limite, je vais te donner un souvenir en dehors du jeu, c'est que moi, n'ayant pas de PlayStation à l'époque, j'y jouais chez un de mes potes qui avait un grand frère qui achetait à peu près tout ce qui sortait, donc qui avait acheté Resident Evil dès qu'il était sorti en Europe, et donc un tout petit peu plus tard. Et c'était l'automne, et je me souviens que les soirs où j'y jouais, pourtant on habitait pas loin l'un de l'autre, mais il faisait nuit quand je devais rentrer, et du coup je détalais pour rentrer chez mes parents, parce que je flippais littéralement ma race, parce que je gardais en tête les ambiances, etc., les bruits de zombies, et j'étais terrifié et fasciné en même temps par ce jeu, parce que, tu l'as dit, le game design est vraiment, vraiment fabuleux, et je trouve que c'est un jeu qui a vraiment sa propre identité sur à peu près tous les points. En fait, d'un coup, c'est un premier épisode, mais qui installe tout de suite un lore assez conséquent, énormément d'ennemis, énormément de scènes marquantes. On peut parler de l'arrivée du Hunter aussi, par exemple. Ah oui. Mais avec en plus, en tout cas pour l'époque, moi, il y a plein de choses qui me fascinaient. C'était plein de petits secrets, parce qu'il y a des armes que tu pouvais louper. Il y a des choses à côté desquelles tu pouvais passer, des multiples fins, deux personnages différents, avec des scènes de fins différentes en fonction de tes choix. Et pour moi, c'était quelque chose de fascinant, parce que c'était un jeu que je trouvais très dense, très complet, vraiment très réfléchi, en fait. C'est quelque chose qui m'a évidemment bluffé.
Ce qui est marrant que tu parles du lore, de l'installation du lore immédiate, c'est que quand Hideki Kamiya a développé Resident 2, qui est devenu ensuite Resident 1.5, il n'en tenait quasiment pas compte de ce lore, il y avait de vagues références, etc. Et quand ils ont rebooté le jeu entièrement, c'est en partie à cause de remarques d'un scénariste. Ils ont fait venir un scénariste de télé, etc., pour qu'il donne son avis, et il n'a pas du tout aimé le jeu, et en partie, il a dit il faut relier plus le jeu à ce qui se passait dans le premier, ce scénariste-là qui avait bossé sur... En plus, c'est pas un mec qui a créé des films oscarisés, hein, c'était un scénariste de Power Rangers, enfin de Super Sentai et de Kamen Rider et des trucs comme ça. Donc, et lui, il a dit non, il faut que faut tenir compte de votre lore et vous rajoutiez des trucs. C'est comme ça que le personnage d'Elsa a disparu au profit de Claire Redfield et de plein d'autres choses. D'ailleurs, ce scénariste-là, ensuite, a travaillé sur pas mal d'épisodes de la série. Mais donc, ouais, le lore, en fait, finalement, c'est presque un heureux accident. Tu vois, ils n'en auraient pas forcément tenu compte.
Mais même s'ils ne l'avaient pas développé dans la suite, je trouve qu'en tout cas, le contenu qu'il y avait dans ce premier épisode était cohérent, conséquent et vraiment très, très, très intéressant.
Et donc, toi, Plumeau, ton...
Ah bah moi, ça reste le chien. Les chiens, c'est le... Et parce qu'ils m'ont beaucoup agacé, les corbeaux aussi. J'avoue que les corbeaux étaient très pénibles à tuer. Et que il y a beaucoup d'histoires de, il y a beaucoup de pénibilité en fait dans mon rapport à Resident Evil. Il y a beaucoup de choses qui m'ont, qui, enfin, c'était pas des trucs qui étaient difficiles. Je parle des corbeaux, des chiens, les hunters, ces saloperies de hunters, ce putain de serpent aussi pour lequel j'avais quasiment plus de munitions. Le serpent géant, et il a fallu que je cravache pour réussir à l'avoir. C'était beaucoup de, c'était vraiment un rapport de ah ouais, mais il faut que je fasse des allers-retours, ah ça fait chier, putain, il va falloir encore que je traverse des couloirs avec des bestioles et tout. C'était assez éprouvant, voilà. Pour l'époque, c'était très éprouvant. Ça me déplaisait pas, mais en même temps, je me disais le survival horror, c'est pas un truc qui va me, dans lequel je vais vouloir m'aventurer très souvent. Bon, après, j'en ai fait plein. Mais et je me disais que, justement, c'est ça qui, fait que ça, qui faisait que ça marche, c'est qu'on te mettait beaucoup de pénibilité dans une expérience globale qui était, somme toute, bien équilibrée, bien pensée et tout, bien calibrée. Parce que c'est un jeu, quand même, la première fois que tu y jouais, il durait vachement, vachement longtemps. Il fallait aller voir dans la map le plus souvent possible pour savoir si tu n'étais pas perdu, bien te rappeler que telle clé allait à tel endroit, que tel objet, fallait faire ça. J'ai ouais, un mélange de satisfaction dans la découverte, en même temps de « Ah, fais chier, il va falloir que j'y retourne, et surtout pas y jouer la nuit, oulala, surtout pas. » Ça, c'était le truc qu'il ne fallait pas faire à l'époque. Mais ouais, les chiens. Franchement, les chiens, ça reste. C'est banal hein, comme réponse, mais c'est vraiment le truc le plus évident, quoi. Et le zombie qui se retourne, mais bon, les chiens.
Ma première partie, le zombie m'a tué direct. Le premier zombie.
Ah
parce
ouais
que, bah, en fait, je me rappelle, j'avais pas le jeu, mais j'avais la PlayStation et j'avais un cousin qui était un peu plus âgé que moi et qui déboule un jour. Ah, il dit, t'as vu Romain ce que j'ai acheté, etc. Il n'avait pas la console, hein. Il venait jouer chez moi. Et il avait acheté Resident, dont j'avais entendu parler dans les magazines au cours des mois précédents. Et là, on lance le jeu déjà scotché par l'intro. Et là, ensuite, il te donne le choix entre Chris et Jill. Et donc, on avait par machisme primaire certainement choisi Chris. Sauf que Chris, il avait deux slots de moins dans l'inventaire.
Exactement.
Et il n'avait pas de gun pour commencer. Donc, c'était le mode hard du jeu, mais ça, on ne le savait pas. Et donc, on déboule face à ce premier zombie avec le couteau qu'on n'arrive pas du tout à maîtriser. Donc, on meurt direct. On relance une nouvelle partie. Là, on se dit, bon, on va prendre la fille, on prend Jill. Et là, miracle, elle a un gun d'emblée dans son inventaire. Donc là, le zombie, on a réussi à se le faire, mais sont les chiens, les chiens quelques minutes plus tard qui ont eu raison de nous. Et tu parlais Plumeau des corbeaux. Et moi, je me souviens que j'avais les pétoches et j'osais, pendant longtemps, j'ai pas osé jouer, enfin, dans les mois qui ont suivi la sortie, j'osais pas jouer tout seul, en fait. Et je me rappelle, j'allais chez un pote. Et on avait réussi tant bien que mal à avancer. On était en galère, on avait quasiment plus de munitions, etc. Et on était tombé sur le bazooka, tu sais, sur le corps de non, c'est pas Joseph, c'est comment il s'appelle celui qui est sur le balcon là, le cadavre Forrest. Ouais,
l'un des membres de l'équipe Alpha.
C'est Forrest de mémoire. Et donc il a son bazooka sur les jambes, donc on le prend. Et là, on arrive dans la salle de l'énigme des portraits avec les corbeaux, justement. On fait n'importe quoi, donc les corbeaux attaquent. Et on a essayé, le désespoir et la panique étaient tellement fortes qu'on a essayé de se faire les corbeaux au bazooka. On n'avait plus de munitions, on n'avait plus rien. On a shooté les corbeaux au bazooka, donc évidemment, bah, à chaque grenade, tu tuais un corbeau, mais quel gâchis! Quel gâchis monumental.
Ouais, faut savoir improviser des fois, écoute.
Et donc oui, pendant longtemps, j'avais les pétoches de jouer tout seul à Resident. Bon, depuis, j'en suis revenu, bien heureusement.
Faut dire, si vous aviez 10-11 ans à l'époque, c'était pas très recommandé. Pas du et tout, deux, non. C'était un peu normal.
C'était pas du tout recommandé. Ouais, mais à 11 ans, j'en ai bien sué sur Resident. Mais que de bons souvenirs malgré tout.
Et que de traumatisme aujourd'hui, hein, parce qu'on rappelle, tu as des tocs, tu es suivi depuis l'âge de 11 ans.
Je suis suivi dans la rue, ouais. On m'en veut.
Ton psy n'en peut plus, ça fait 25 ans qu'il te suit et qu'il ne comprend pas pourquoi. Enfin bref.
Je réclame des sandwichs au restaurant systématiquement, etc. Ma vie est foutue à cause de ça.
Et tu vas passer à autre chose, parce qu'on va passer au thème 2, évidemment. Merci, Resident Evil. 25 ans, donc, de bonheur. On espère que Resident Evil Village, qui arrive au début du mois de mai, le 7 mai, pour être exact, sera, eh bien, raviver une fois de plus la flamme qui a été largement ravivée grâce à Resident Evil 7, hein, d'ailleurs, qui était un excellent épisode. Et on imagine que Village, ne serait-ce que pour l'idée Dimitrescu, qui sera un peu le tyran de notre cœur, eh ben, sera un très bon épisode. Réponse début mai. Le thème numéro 2, c'est encore un anniversaire. Cette fois, c'est la Game Boy Advance. Game Boy Advance qui fête cette année ses 20 ans. Et oui, la déclinaison version écran un peu plus large de la Game Boy avec de la couleur, sorti le 21 mars 2001 au Japon, avec beaucoup de jeux de lancement qui étaient extraordinaires pour l'époque. Parler de, par exemple, F-Zero Maximum... non, c'est pas le Maximum Velocity qui est sorti en premier. Hein.
Si, c'est Maximum Velocity, le jeu de launch.
D'accord, voilà. Donc
ah, regarde, c'est écrit dessus, tu prends ta boîte, tu la lis. Et...
Ah, mais je pensais qu'il y en avait eu un deuxième de F-Zero...
Il est sorti bien plus tard, c'est celui qui est scénarisé. Non, il y en a même eu trois, parce qu'il y a un dernier opus qui est sorti au Japon, qui s'inspirait de la série et qui n'est jamais arrivé chez nous.
Voilà, on a du Castlevania Circle of the Moon aussi, on a du Super Mario Advance, Rayman, F-Zero, Tony Hawk, qui passe
en 3D,
Avec des personnes en 3D, mais il était en 3D isométrique, lui, si je me souviens.
Mais il était quand même visuellement hyper impressionnant pour une portable qui se lançait.
Qui était impressionnant et incroyablement bon à jouer. J'ai un souvenir d'ailleurs que dans le Joypad, encore une fois, en 2001, il avait pris une super note et c'était considéré comme un des indispensables. Bref, console qui sort le 21 mars 2000 en Japon, qui arrive un peu plus tard chez nous, qui est encore une fois une révolution portable de la part de Nintendo, Thomas.
Ah bah oui, parce qu'on franchissait un cap. La Game Boy, notamment grâce à Pokémon, avait connu une existence bien plus longue que ce que Nintendo aurait pu rêver au départ. Et du coup, il aurait fallu un certain temps pour mettre en chantier justement une véritable suite. Et c'est vrai que sur le plan technique et ergonomique, on franchissait vraiment un cap, puisque tu l'as dit, une console qui désormais s'affiche en mode paysage avec une palette de couleurs qui est bien plus importante. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle était un peu vendue à l'époque comme une 32 bits.
J'allais le dire.
Alors que finalement, c'est plus une Super Famicom portable dans les faits, une Super Famicom un petit peu boostée, mais en tout cas sur ce qu'elle permettait d'afficher, on était plus sur une génération d'avant, ou en tout cas entre deux générations. Mais c'était quand même super impressionnant, malgré l'absence de plein de choses, à commencer par le rétroéclairage, ce qui paraît quand même assez dingue aujourd'hui. Mais l'apparition de boutons de tranche, mine de rien, qui changeait quand même un petit peu la donne, qui permettait de faire pas mal de choses. Et puis, c'est surtout une console sur laquelle il y a quand même des séries qui sont nées, finalement. C'est pas qu'une console de portage, parce qu'on en parle beaucoup avec la Switch aujourd'hui, mais sur Game Boy Advance, il y a quand même énormément de classiques des airs 8 et 16 bits qui ont été portés. Et c'était déjà génial à l'époque, parce que ça les rendait jouables, justement, à peu près partout. Et dès le lancement, on parlait de Rayman, en tout cas chez nous, Super Mario Bros. 2 qui était ressorti sous le nom de Super Mario Advance. Le simple fait de l'avoir dans la poche et de pouvoir y jouer partout, c'était une petite révolution parce que sur Game Boy classique, on avait des portages qui étaient absolument pas fidèles aux versions consoles de salon. Et là, pour le coup, ça avait changé justement un petit peu la donne. Et quand on regarde la palanquée de portages qui sont sortis sur la console, ça rappelle justement cet engouement qu'on a aujourd'hui avec sa sœur, oui, mais sur Switch, donc c'est forcément un peu plus intéressant.
C'est marrant que tu dis ça, parce que je me souviens que pour le jeu multi sur Game Boy, aussi bien l'original que la Game Boy Advance, c'était le système de câble Link qu'il fallait utiliser. Et je me rappelle avoir beaucoup, beaucoup plus joué en câble Link sur GBA que sur la première Game Boy. Et c'était en partie lié au fait que t'avais des... C'est marrant, hein, parce que l'histoire est un éternel recommencement. T'avais presque l'impression d'avoir des expériences de salon dans la poche. Avec mon meilleur pote, je me souviens qu'on a beaucoup joué à Doom en Link. On a joué à, c'était Street Fighter Alpha 2, je crois, qui était sur, qui était dispo. On a joué à Virtua Tennis. On a joué à Mario Kart parce que le Mario Kart de la GBA était top aussi. Et donc on avait ces expériences un peu qu'on avait à la maison quand on était sur le canapé avec chacun sa manette. On arrivait à avoir ce type de ressenti en jouant via câble Link sur GBA. Beaucoup de, curieusement, j'ai beaucoup de souvenirs de multi sur GBA.
Et pour cause, parce qu'il y a eu beaucoup de jeux effectivement qui en profitaient avec ce fameux câble Link auquel on pouvait jouer d'ailleurs à 4 pour la plupart des jeux. Il y a des séries aussi qui en profitaient peut-être un peu plus. D'ailleurs, au passage, il y a aussi cette compatibilité avec la GameCube qui, mine de rien, était bienvenue. Avant, on avait la Super Nintendo qui pouvait lire des cartouches Game Boy avec le Super Game Boy. Là, on a eu droit carrément à des jeux complets qui pouvaient être linkés à la Game Boy Advance pour pouvoir faire des parties un peu sur deux écrans, en fait. Au final, on pense presque.
Non, mais ça n'a pas été très, très exploité. Il y a eu des expériences sympathiques. Je te laisse les citer, mais voilà, c'était assez réduit quand même.
Bon, alors Crystal Chronicles, même si ce n'est pas forcément ce que je préfère, mais surtout Four Swords. Mm-hmm. Zelda Four Swords qui est une super expérience, qui fait une suite, entre guillemets, une bonne suite à Link's Awakening. Non, pas Link's Awakening, merde.
Link to the Past.
Link to the Past, merci. Donc la version Super Nintendo, et qui est devenue une espèce de modèle qui a été réitéré plusieurs fois d'ailleurs avec le Link normal, le vert, avec le rouge, le bleu, le jaune. Quatre héros en même temps qui marchaient très très bien.
Et un passage. Pac-Man aussi chez Konami qui était très intéressant, qui était l'un des rares jeux à intelligemment exploiter justement le système de deux écrans où tu passais de la télé à ta GBA. Voilà, il y a aussi quelques tirs qui s'y sont mis.
Et les Pokémon aussi on en profitait, si je ne m'abuse, avec Pokémon Colosseum dans ce que je crois au niveau de mes souvenirs. Et Pokémon lui-même d'ailleurs sur GBA a eu un beau succès. Il y a des épisodes qui ont été largement plébiscité, si je ne m'abuse.
Ruby et Saphir. Tu as eu aussi les remakes de Pokémon Rouge et
Vert.
C'était en plein, après la folie Pokémon n'est jamais vraiment retombée, mais on était à une époque où c'était quand même quelque chose. Donc ça a évidemment contribué au succès de la machine. Mais il y avait une variété, d'une manière générale, une variété de jeux qui était conséquente, aussi bien avec des portages que des jeux inédits. Moi, j'ai passé beaucoup de temps aussi sur CPA, sur des jeux Dragon Ball, curieusement. T'avais les Legacy of Goku. Alors, le 1, c'était un peu une ébauche, mais le Legacy of Goku 2 et 3, par exemple, c'était développé aux États-Unis, mais c'était des RPG, des actions RPG qui étaient quand même vraiment, vraiment chouettes.
C'est ceux qui étaient édités par Atari, là, les RPG top-down.
Ça.
D'accord.
T'avais aussi Goku de Dragon Ball Advance Adventure qui est vraiment excellent et qui est une référence dans les jeux Dragon Ball depuis. Après c'est vrai qu'on pourrait faire une liste immense de jeux marquants sur GBA. Et ce qui est marrant parce que tu disais Thomas tout à l'heure que la console avait été un peu vendue comme une console 32 bits. C'est je suis totalement d'accord avec toi. Je m'en souviens très bien. Il y a quelques jeux qui ont un peu fait des expérimentations avec la 3D sur GBA, mais ça reste quand même la minorité. Et pour relier avec notre premier thème, il y a une équipe qui avait carrément essayé de porter Resident Evil 2 sur GBA. Il y a une démo qui circule hein, d'ailleurs sur le net, c'est assez facile à trouver. Et c'est là où tu te dis que, alors, malgré des limitations, la console était quand même capable de faire des choses assez impressionnantes pour une machine portable de cette puissance-là. C'est dommage finalement que ça n'ait pas été plus exploité sur la vie totale de la console.
Je trouvais ça bienvenu à l'époque parce que on passait de, alors chez Nintendo en tout cas, sur les consoles de salon, de la Nintendo 64 à la GameCube, et on perdait justement cet aspect jeu 2D à l'ancienne. Et voilà, à l'époque, j'avais l'impression que c'était justement un nouveau débouché pour des plateformeurs 2D, des jeux de ce style-là qui n'existaient plus. En tout cas, à l'époque, sur les consoles de salon, c'était un peu une bouffée d'oxygène quelque part. C'était bienvenu.
Oui, et Plumeau, tu parlais de la compatibilité pour, avec certains jeux GameCube, mais en parallèle à ça, il y a aussi eu le Game Boy Player, qui était l'équivalent GameCube du Super Game Boy. En fait, tu faisais visser ça sous ton GameCube et tu pouvais jouer à tes jeux GBA sur ta télé. Donc, comme toujours avec Nintendo sur les consoles portables, il y a eu pas mal de périphériques et d'idées diverses et variées. Il y avait aussi des jeux avec des gyroscopes. Inclus directement dans la cartouche. Tu avais aussi le jeu de Boktai, c'est ça ?
Hideo Kojima, oui, absolument.
Kojima, avec qui lui gérait la lumière. C'est ça. J'ai jamais joué à Boktai.
En fonction de
l'ensoleillement.
De l'ensoleillement, le jeu changeait pas mal de choses. Il y en a eu deux, hein, des Boktai. Et ouais, il y avait ça. Il y a eu des collaborations entre Kojima et Capcom aussi, si je me souviens à l'époque. Je sais plus sur quel jeu. Mais bref, il y a eu énormément de jeux qui sont nés. Thomas le disait tout à l'heure, il y a énormément de licences qui sont nées spécifiquement sur GBA. Il y en a certaines qui sont revenues. Je pense à ces rééditions de Final Fantasy 4, 5 et 6. 1, 2 et 3 aussi étaient revenus. Alors, oui.
1 et 2, Dawn of Souls. Ensuite, 4 et 6 qui étaient sortis un petit peu plus tard.
Et 5 aussi. Hein. En fait, ils sont tous ressortis en version GBA et même traduits en Europe. Traduits en français. Le 6, par exemple, vous aviez même un donjon supplémentaire dans la version GBA. Et une vraie traduction bonne cette fois, pas par un seul mec qui l'a fait en un mois et qui était sous pression. Bref, tout était... Tout était très bien. On pense à des licences aussi comme Shining Force, qui a eu droit à un retour aussi sur GBA. On peut citer un jeu qui est très cher au cœur de Romain et Thomas, qui est WarioWare.
Un jeu incroyable. Un jeu sans équivalent déjà à l'époque et que personne n'a réussi à reproduire la folie, je trouve, depuis sa sortie.
Et je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi on n'a pas un WarioWare sur Switch. C'est, pour moi, c'est un mystère, oui. Un mystère total.
Là, on a l'impression qu'avec le Gold sur 3DS, c'était un peu, voilà, on vous fait un best-of et c'est la fin du groupe, quoi. Tu sais, c'est l'album compilatoire avant de raccrocher. Et je suis d'accord, c'est très dommage parce que c'est une série qui a un potentiel, mais d'une surpuissance incroyable. Moi, c'est un jeu moi, qui m'a vraiment marqué sur GBA et même sa version GameCube après a été très très chouette parce que aussi... Repenser, ça fait partie des grandes séries pour moi qui sont nées sur GBA, avec d'autres, on peut évidemment citer Golden Sun, que tous les mordus de JRPG continuent d'espérer voir revenir un jour, mais surtout, la plus grande d'entre toutes, Ace Attorney, qui même si elle n'est pas sortie chez nous sur GBA, est quand même née, on parlait de Shinji Mikami chez Capcom tout à l'heure, mais Shu Takumi qui lui aussi s'est révélé véritablement avec Ace Attorney, ce visual novel que vous connaissez tous désormais, puisque le premier épisode était ressorti chez nous traduit sur DS bien des années plus tard, mais voilà, les trois premiers, la première trilogie est née sur Game Boy Advance, et moi je me souviens en avoir entendu parler pour la première fois dans le Joypad, qui en avait parlé parmi tous les jeux justement qui allaient sortir sur GBA. Et je trouvais ça tellement ubuesque, un jeu d'avocat, que je me disais ça va forcément être génial. Alors, j'ai dû attendre de très 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 longtemps pour le découvrir, mais c'était effectivement le cas. Et d'ailleurs, je me souviens, je pense que ça vous a marqué aussi, à la sortie en import de la console, il y avait eu un petit fascicule, un petit supplément justement dans le Joypad, qui est toujours dispo, qu'on a retrouvé sur le net, et que Poufy, dans sa grande classe et son sens du timing, va sans doute vous montrer à l'écran, et qui présentait un petit peu tous les jeux du line-up japonais. Du coup, on pouvait déjà découvrir un peu ce qui allait arriver, notamment Castlevania et F-Zero, deux gros jeux du lancement, et tout le reste, et les jeux aussi à venir. C'était une époque où, voilà, il faut qu'on se rappelle, les jeunes d'aujourd'hui, rappelez-vous qu'à l'époque, on devait attendre de très longs mois pour qu'une console daigne enfin arriver chez nous avec quelques jeux éventuellement traduits, c'était autre chose.
Ouais, et on parle même pas de Mario et Luigi, on parle même pas non plus des Metroid Fusion, Metroid Zero, des Final Fantasy Tactics, parce qu'il n'y en a pas eu un que sur PlayStation 1, ensuite PSP, il y a eu les versions GBA, on vous parle même pas d'Advance Wars, du retour de Fire Emblem grâce à la GBA et des autres Castlevania, évidemment. Il y a eu énormément de très bons jeux, et pourtant c'est quand même une console qui n'est pas restée on va dire en vente très longtemps. Alors, il y a eu les modèles SP, évidemment, qui sont arrivés après, qui mettaient enfin le rétroéclairage, mais qui étaient des consoles à clapet. Et il y a eu la version micro aussi, qui est arrivée un peu plus tard. Mais mine de rien, c'est une console qui a été remplacée très vite, console portable qui a été remplacée assez vite, puisque le successeur, c'est la DS. Et la DS, elle arrive en 2004, si je ne m'abuse. Donc, ça fait une...
Toute fin 2004 aux États-Unis, ouais.
Donc, ça fait 3 ans, mine de rien, avant qu'un successeur arrive.
Bah, en même temps, est-ce que c'est un successeur ? Je te laisse la parole, Romain, mais on peut se poser la question.
Ce qui n'a pas joué en sa faveur, c'est qu'elle arrive... Elle se place entre deux monuments de Nintendo.
La Virtual Boy.
T'as d'un côté la Game Boy originale, et on va dire la Game Boy Color qui vient se greffer un peu là-dessus, même si en termes de mythe, elle n'est pas au niveau de l'original. Et d'un côté, la DS qui a été un véritable rouleau compresseur. Je pense que même Nintendo ne s'attendait pas forcément à un tel succès avec la DS. Donc, elle vient un peu se caler entre les deux, entre les deux à ce moment-là. Et donc, ouais, ça, elle a peut-être pas marqué les esprits autant que celles qui sont venues avant et celles qui est venue après. Mais ça veut pas dire qu'elle démérite pour autant. Et j'ai l'impression aussi que la GBA, c'est la première console de Nintendo qui a vraiment imposé ce système de coloris multiples et d'éditions spéciales et de collector et de trucs comme ça. Parce qu'on sait que les Game Boy originales, elles étaient sorties en plusieurs couleurs. Ensuite, la Game Boy Color, tu as eu quelques éditions Pikachu et trucs comme ça, machin. Mais là, sur GBA, vous avez vraiment eu énormément de coloris, plus après avec la SP et avec la micro, une tonne de variantes et de modèles. D'ailleurs, moi, la SP, j'ai l'édition NES, tu sais, qui reprenait la couleur de la NES, qui en plus a été accompagnée d'une série de rééditions de jeux spécifiques. Et donc, ouais, il y a eu des initiatives qui ont été lancées vraiment sur cette console-là, je trouve, qui ont ensuite resservi par la suite. Mais c'est vrai que quand tu fais l'historique de Nintendo et que si tu veux vraiment te concentrer sur des consoles marquantes, bah, l'impasse sera peut-être faite sur la GBA au profit de la première Game Boy et de la DS plus que sur la... La GBA, c'est un peu la fin de l'ère Game Boy, quoi. C'est, de toute façon, c'est la dernière console qui a apporté ce nom-là. Et ensuite, Nintendo est passé à autre chose.
Ça aurait pu être différent, hein.
Mais pourtant, elle a été la fin de prod est en 2006. Donc, c'est un cycle qui est quand même assez honorable, mine de rien. Et aujourd'hui, enfin... on n'a pas l'impression que les gens qui ont des GBA aient envie de les lâcher. Ça reste quand même une machine qui est encore très chère au cœur de tous les rétro gamers.
Et de mémoire, les micros, les GBA micro valent une blinde aujourd'hui sur le marché de l'occasion et sur le marché des collectionneurs, parce que elle est arrivée très tardivement dans le cycle de vie. La DS était déjà là, et je pense qu'ils n'ont pas dû en mettre sur le marché des quantités incroyables non plus, donc ça en fait une machine qui est assez désirable. Mais la GBA, en fait, elle n'a pas à rougir de ce qu'elle a proposé vis-à-vis de ses concurrentes et de ses petites et grandes sœurs. D'ailleurs, 81 millions d'exemplaires vendus. Enfin, on est loin du beat quand même. Hein. Ça reste quand même un beau succès pour Nintendo. C'est juste que là encore, elle tombe entre deux monuments de l'histoire du jeu vidéo. Et donc, forcément, en termes de réputation et de popularité, elle est un petit cran en dessous. Mais franchement, machine formidable. Je pense qu'elle... Si je devais juste lui reprocher un truc, je pense qu'elle aurait dû sortir d'emblée rétroéclairée. Je me souviens de parties où tu te tords comme ça pour essayer d'être dans le bon rayon de lumière, pour pas être trop ébloui, mais pour quand même arriver à voir un peu ton écran. Quand ça sort en 2001, c'est un peu bizarre de proposer une console qui n'est pas rétroéclairée. Surtout qu'il y avait eu au Japon des Game Boy des Game Boy Light, qui était déjà rétroéclairé, donc on sait que Nintendo était capable de faire ça, mais je pense que comme d'habitude avec Nintendo, c'était pour maintenir les coûts de production au plus bas, et donc le prix de vente au plus bas également.
Comme pour les piles, hein. Pourquoi mettre des piles quand tu peux peut-être penser à mettre des batteries à ce moment-là.
Ils ont changé en cours de génération.
Ouais, mais bon, c'était...
Tu te rends compte, c'était quand même... Enfin, au début des années 2000, moi, j'avais encore un petit truc branché. Parce que, tu sais, il y avait un port sur le haut de la GBA. Mmh. J'avais ma petite lampe, petite lampe en tortillée que je venais brancher sur le truc, qui éclairait pas grand-chose au final, qui faisait plus un point lumineux au milieu de ton écran qui te gênait plus qu'autre chose. Mais on en était encore là, quoi.
Ouais, ouais. Que de souvenirs dingue. Avec la GBA, que de souvenirs. Bon anniversaire du coup GBA, toi aussi, 20 ans de bons et loyaux services, certains d'entre nous l'ont toujours, on verra pour les 25 ans, allez on en reparlera sûrement, ça se trouve elle sera à ce moment-là, il y aura une réédition de la part de Nintendo ou je ne sais quoi, un truc qui sera en vente seulement pendant 6 mois comme Super Mario 35, bref on en reparlera à ce moment-là. On va finir ce podcast avec le dernier thème c'est pas aussi joyeux que ce dont on vient de vous parler.
On fait comme ça là.
C'est, là voilà, c'est là on tombe, on fait une grosse chute. Une énorme chute. C'est Balan Wonderworld, mon cher Thomas, pour lequel nous posions il y a quelques semaines quand tu faisais la preview, la question simple, est-ce qu'on va l'appeler Balek Wonderworld ? Eh ben écoute, voilà, la question elle est vite répondue comme on dit sur internet. C'est pas du tout un bon jeu de la part de Yuji Naka.
Bah non, c'est pas un bon jeu et je pense que c'est pire que tout de l'avoir présenté avant même qu'il soit justement annoncé comme un jeu important dans la carrière de Naka parce que c'est son premier jeu édité par Square Enix, donc c'est le premier effort né d'un nouveau partenariat entre Naka et le géant du JRPG, entre autres. Et avant que le jeu sorte, Naka parlait justement de son âge avancé, de la retraite qui allait justement pointer le bout de son nez en disant bah, « à partir de maintenant, chacun des jeux sur lesquels je devais travailler doit être important parce que je ne vais plus en faire tant que ça ». Donc voilà, ils ont tous un aspect assez stratégique. Et qu'est-ce qui sort justement derrière ça ? Balan Wonderworld. Et là, tu te dis… Mais pourquoi ? Dans ce cas-là, il vaut mieux fermer sa bouche, ne pas teaser les gens et ne pas voilà, laisser imaginer que ça va être un jeu d'envergure parce que c'est malheureusement pas le cas. Alors, Naka revient à ses premières amours, en tout cas quelques-unes de ses premières amours, puisque c'est un platformer 3D, vraiment, comme on l'avait dit, dans la plus pure tradition du genre. C'est un platformer 3D à la limite du scolaire, en fait. Très, très basique dans son approche. Alors, visuellement, assez chatoyant, puisque c'est un jeu, on va le dire, qui est coloré, saturé de couleurs. Il y a vraiment une ambiance, pour le coup, qui se dégage de Balan Wonderworld. On suit deux enfants, Léo et Emma, qui ont tous les deux une bonne raison d'être un petit peu tristes, ostracisés. Voilà, ils ont des problèmes. Et le personnage éponyme de Balan leur propose, en fait, d'entrer dans son théâtre. Théâtre qui va les emmener à la rencontre d'une douzaine de personnages qui ont eux aussi beaucoup de problèmes existentiels et donc en parcourant une douzaine de niveaux divisés en deux actes plus un boss à chaque fois, ils vont devoir essayer de venir en aide à ces personnages en récupérant tout un tas de collectibles. Hein. On l'a dit, c'est un platformer vraiment à l'ancienne, donc c'est des gemmes à récupérer, des trophées pour pouvoir progresser, débloquer de nouveaux niveaux. Que du très classique, ce qui en soi n'est pas forcément mauvais, puisqu'on peut très bien reprendre une formule à l'ancienne et faire quelque chose d'intéressant. Mais là, le problème, c'est que la mécanique centrale de Balan Wonderworld est un putain de handicap, puisqu'en fait, vous avez 80 costumes à votre disposition, des costumes basés sur des animaux avec des petits noms rigolos à la Pokémon qui sont plutôt bien trouvés et aussi bien traduits dans la version française et qui vont chacun vous permettre eh bien, d'effectuer une action particulière. Ça peut être planer, ça peut être donner un coup particulier, tourbillonner, flotter dans les airs comme un nuage, bref, une palette de mouvements assez conséquente, mais chacun de ces costumes en fait n'est utilisable vous devez changer en fait, de costume au fur et à mesure avec les boutons de tranche. Et quand je vous dis qu'ils permettent de faire une action, c'est que souvent ils permettent de faire une action. Donc des costumes qui permettent d'attaquer ne permettent pas forcément de sauter. Et on est dans un platformer, donc ça peut très vite devenir assez chiant, assez handicapant, assez frustrant même. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, on va comprendre pourquoi il y a cette mécanique autour de laquelle tout s'articule. Et en fait, non. Plus on avance dans le jeu et plus on se dit que c'est juste une manière un peu d'entraver la progression quelque part, alors que le level design est pas foufou, il est assez classique. Il n'y a pas énormément de grosses surprises, on est vraiment sur de la plateforme un peu carrée. On a l'impression que tout a été fait un petit peu rapidement, en fait. Et on ne comprend pas pourquoi il y a eu ce choix, à un moment donné, dans la production du jeu, de se baser sur des costumes qu'on allait devoir intervertir les uns avec les autres. Alors, ça permet évidemment un petit aspect backtracking dans le jeu, puisque dans chacun des niveaux, il y a des zones dans lesquelles tu ne vas pas pouvoir accéder immédiatement. Une fois que tu as débloqué tel costume un petit peu plus loin, tu vas pouvoir revenir et essayer d'aller chercher les trophées supplémentaires. On ne sait pas forcément pourquoi, parce que les niveaux ne donnent pas, a priori, très envie d'y revenir. Et en plus de tout ça, on a vraiment l'impression de jouer à un jeu qui a été sorti parce qu'il fallait le sortir. Moi, je me suis demandé si le fait qu'il sorte là à la fin mars, juste avant la clôture de la fin de l'année fiscale, avait joué ou pas. Parce qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas finis, et des trucs de base comme les collisions. Quand on tape des ennemis, des fois on se dit « Ah ouais, ah, je l'ai touché, j'aurais pas dit ». Pareil pour les boss, il y a vraiment des collisions qui sont assez flottantes, assez difficiles à déterminer. Une raideur vraiment dans le déplacement des personnages et des choses assez visuellement assez basiques en fait, qui manquent de profondeur, qui manquent de relief. Et c'est un jeu vraiment à l'ancienne, mais je pense que même s'il était sorti, on parlait de 96, tiens, 96, la PlayStation, Pandemonium, enfin voilà, les premiers Jumping Flash, les premiers platformers 3D, déjà à l'époque, il n'aurait pas été dingo, en fait, dans son approche. Et pourtant, des mauvais platformers 3D, il y en a eu beaucoup depuis une trentaine d'années. Mais celui-là, on se demande pourquoi, en fait. J'invite les lecteurs qui auraient envie d'y jouer et qui l'auraient éventuellement apprécié à venir me dire pourquoi, parce que c'est vraiment une énigme. Il y a des jeux japonais complètement pétés. Je vais prendre le plus récent qui me vient en tête, Final Fantasy XV. C'est un jeu fascinant à explorer parce qu'il est tellement cabossé que tu vois des choses. Là, Balan Wonderworld, il est juste incroyablement basique et je comprends pas en fait ce qui s'est passé. J'aimerais tellement connaître les coulisses du développement de ce jeu, de savoir qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est décidé à un moment donné. Est-ce que l'idée de base a été jugée bonne par tout le monde et personne est intervenu en disant « mais pourquoi on fait ça, c'est nul, on pourrait pas penser à autre chose » ou est-ce que c'est l'éditeur qui a mis la pression pour que le jeu sorte. Mais en tout cas, pour le jeu qui était censé signer un petit peu le comeback de Yuji Naka et commencer à entamer la fin de sa carrière, on a l'impression qu'on est face à un jeu d'une équipe un peu débutante, en fait, parce que, mis à part l'aspect graphique, le côté coloré, conte de fées, etc., avec ces différents personnages qui ont toute une petite histoire à raconter, vraiment en termes de mécanique, en termes de réalisation, on est face à quelque chose de pas abouti, en fait. Je ne vais pas dire à la cyberpunk, mais voilà, on a l'impression que le jeu manque encore de contenu et de vraie consistance. Alors, pas de contenu parce qu'il y a une douzaine de niveaux, mais dans sa structure, dans la manière dont il fonctionne, il y a vraiment quelque chose de très, très limité. Et je me demande ce que ça va donner pour la suite, en fait. Quel est l'avenir de Yuji Naka avec Square Enix ? Est-ce que tous les jeux qui vont sortir de ce partenariat vont être aussi basiques ? Je ne sais pas. Alors voilà, il y a des choses à décliner. On retrouve un peu le système des Chao qu'il y avait dans Sonic Adventure, à savoir que les gemmes que tu récupères, tu peux les dépenser dans l'open world pour engraisser un petit peu des petites créatures. Enfin, on retrouve plein de thématiques qui sont chères à Naka sur tout un tas d'aspects, mais on a l'impression que le jeu est figé dans le milieu des années 90. Il n'y a pas eu d'évolution depuis, alors que si, très clairement. Et du coup, je ne peux le recommander à personne parce qu'il n'est même pas rigolo à explorer. J'ai fait le remake de 13 il n'y a pas très longtemps. Ça faisait des années que je ne m'étais pas autant marré en faisant un jeu parce que lui, il est mauvais, mais il est incroyablement drôle tellement il est mauvais. Alors, tu n'es peut-être pas d'accord parce que toi, Plume, tu as dû faire le test. Moi, j'ai joué juste pour mon plaisir personnel et vraiment, je me suis marré. Là, Balan Wonderworld, tu ne te marres même pas. C'est juste redondant et assez.
Bah en fait, j'ai l'impression que tu me parles de Knights en fait quand tu parles de Balan Wonderworld. Je suis désolé, Knights, j'ai eu le même sentiment à l'époque avec Knights. C'était joli, coloré. J'avais l'impression que ça allait bien se passer et en fait c'était tout plat. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, je venais de jouer à Mario 64, donc c'est peut-être aussi pour ça.
Mais Knights est sorti en 97. Là, on est en 2016.
96,
autant pour moi.
96 aussi.
Là, on est en 2021 et le jeu accuse déjà son âge et c'est assez incompréhensible qu'il soit sorti dans cet état-là. Donc voilà, en ce qui me concerne, c'est 4 sur 10. C'est vraiment pas un bon jeu et je ne vous le conseille pas parce que même si vous avez des enfants et que vous dites « Ah oui, bah c'est un platformer coloré, mignon, machin », il y a tellement d'autres jeux dans ce style-là qui sont beaucoup plus intéressants et qui proposent des mécaniques enrichissantes que je ne vois pas à qui se destine Balan Wonderworld, qui pourtant est sorti sur absolument toutes les plateformes. Vous pouvez y jouer à peu près partout, mais n'y jouez plutôt pas, en fait, s'il fallait faire le tour de la question.
D'accord. Et est-ce que tu le conseillerais aux fans de The Quiet Man? C'est pour un copain qui est pas loin d'ici, avec des origines espagnoles. Peut-être que lui, ça pourrait l'intéresser, je sais pas.
Je sais pas, parce que quand il a joué à The Quiet Man, il s'est demandé c'est donc ça ma vie. J'ai peut-être pas envie qu'il se repose la question aujourd'hui. Donc non, Angel, oui, alors. À la limite, oui, qu'Angel, qui adore les productions de Naka, nous donne son avis, ce serait intéressant. Mais moi, je suis très curieux de discuter avec des gens qui l'auraient trouvé, ne serait-ce que sympatoche, tu vois, parce que j'aimerais bien connaître les raisons, justement, de ce semi-engouement.
Il y a des gens pour défendre, enfin, pour tout défendre.
Mais je suis curieux de connaître les arguments, tu vois, parce
même
que
l'indéfendable. Moi,
vraiment, même en cherchant, tu vois, même en essayant de lui trouver des excuses, j'ai vraiment pas réussi.
Bon, bah on va pas lui en chercher de toute façon.
Voilà, donc évitez Balan Wonderworld.
Parce que tout simplement, on arrive à la fin de ce podcast, qu'on espère, on espère d'ailleurs qu'il vous a plu. On vous remercie une fois de plus de votre fidélité. On se retrouvera la semaine prochaine. On va remercier aussi Thomas, on va remercier aussi Romain, on va remercier aussi Poufy. On est parti pour 4 semaines de confinement. Allez hop, on est content, c'est super.
De confinement, tu veux dire ?
Ouais, de bouffinement, absolument. Donc, on est tous très heureux de à nouveau d'être enfermés chez nous. On va essayer de vous proposer les podcasts de manière tout à fait régulière, comme d'habitude. De toute manière, maintenant, on a chacun à peu près chez nous, on a le matos qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, c'est différent de l'année dernière. Tout va bien. On peut vraiment travailler dans des bonnes conditions. On espère que vous allez prendre soin de vous, que vous n'allez pas faire n'importe quoi, que le taux d'incidence va baisser et qu'à la fin du mois d'avril, tout le monde sera un peu dans une meilleure forme, que ce soit physique et psychologique. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. On vous embrasse. Et voilà, c'est tout. Ciao.
Et bisous.
Ciao.